Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Ah oui, on pourrait penser que Cinérama a changé de créneau horaire et passé en soirée pour avoir un générique aussi punchy. Mais non, pas du tout. C'est le générique nouvelle formule de septembre 2011. Il changera peut-être. En tout cas, c'est une nouvelle saison qui redémarre. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Tu es la seule rescapée de la dernière saison.
Oui, puisque j'y reste.
Martin nous a quittés pour faire autre chose autrement. On le remercie quand même, mais on espère le retrouver en tout cas sur les ondes de Divergence. Et on va tout de suite saluer eh bien, notre invité du jour de cette première émission, c'est Michel Princey.
Oui, bonjour, content de vous retrouver.
Et oui, parce que je pense que tu étais là quasiment soit la dernière, soit l'antépénultième, enfin quelque chose comme ça.
Tu étais là
au mois de juin.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Après, c'était des vacances.
Et donc, tu fais partie du collectif Ciné Solidarité Latino de Montpellier, Cosisola, voilà, ça se dit comme
oui,
ça.
Ouais.
Et tu nous parleras donc d'une soirée ciné-débat le jeudi 29 septembre au Nestor Burma et sur le film Viva Mexico, un documentaire sur le sous-commandant Marcos.
Sur le mouvement zapatiste.
Sous le mouvement zapatiste avec voilà. Le sous-commandant Marcos, entre la pipe
voilà.
et la cagoule.
Oui.
Et sinon, le programme, Marine, ça va être quoi pour toi?
Alors le programme, pour ma part, un petit récapitulatif des films sortis au mois d'août. Donc il y aura Balade attristée, En vrac, Mélancolia, La guerre est déclarée, La piel qui habito, Les bien-aimés.
Ce qui est déjà pas mal. Et puis moi, je vous parlerai d'un film qui sort aujourd'hui, c'est Attenberg. C'est un film grec. Voilà, donc la Grèce ne fait pas parler que par sa crise, mais aussi un tout petit peu par son cinéma.
Oh bah mon vieux, j'aurais pu.
Voilà, donc ça, on s'en débarrasse tout de suite. La guerre des boutons, l'arrivée, le retour, voilà, ça c'est fini. On n'en parlera pas de ces deux films, à moins que quelqu'un ait un commentaire à faire ou qu'il se taise à jamais.
Je me tais.
Moi, je plains les couturières. Ils leur coûtent tous les boutons après.
Donc, nous ne parlerons pas donc, de la guerre des boutons. Et on va commencer avec toi, Marine, hein, sur les films qui sont sortis au mois d'août et qui continuent leur petite carrière.
Oui, voilà, donc... Au cours de la dernière émission, de la saison dernière, une émission d'anthologie, hein, parce qu'on était quand même un et demi pour la présenter. Il y avait Martin et une seule moitié de mon cerveau présent dans le studio. Donc Martin avait détaillé les sorties de l'été, et plus particulièrement les films à ne pas manquer. Donc l'occasion à présent d'évoquer les gros ratages, les faux buzz et les vrais chefs-d'œuvre auxquels nous avons eu droit le mois dernier, sachant que la plupart des films sont encore à l'affiche au Diagonal, à l'Utopia ou au Nestor Burma. Alors, commençons tout de suite. Première lourde déception, c'était sorti fin juillet, Balada Triste de Alex de la Iglesia. Pourtant, auréolé de ses 11 nominations au Goyaz, il faut savoir qu'il n'en a en réalité obtenu que 2 pour les effets visuels et le maquillage. Une farce qui se veut baroque et rocambolesque avec des clowns tueurs, des acrobates nymphomanes, un homme canon au sens premier du terme, des méchants franquistes, tout cela mélangé dans un numéro explosif, plein de bruit et de fureur. Alors malgré une première partie haute en couleurs qui dresse un univers burlesque et décadent, l'ensemble finit par fatiguer à force de surenchères visuelles et d'aberrations scénaristiques. Le film se voudrait poétique, surréaliste, mais il en devient grotesque et hystérique. Le montage en est le principal responsable, en occultant certains pans de l'histoire par des ellipses invraisemblables et en étirant d'autres scènes à outrance, il finit par perdre ou par écœurer totalement le spectateur. Alex de la Iglesia a donc encore un peu de chemin à parcourir avant de devenir le Tarantino ibérique.
Qu'est-ce qu'on attend avec impatience?
Demain soir!
Eh oui!
J'ai peur de cette stupide planète.
Elle ne va pas nous heurter.
Tu me le promets. Il n'y a de la vie que sur la Terre. Et plus pour longtemps.
Moi, je crois que t'en sais rien du tout.
Par moments, je te hais tellement, Justine. bien.
J'ai peur que la planète nous heurte quand même.
Voilà, c'est un extrait de la bande-annonce de Mélancolia, bien sûr, non pas de Ballada Triste. Alors cette année, Cannes n'aura pas joué avec notre patience trop longtemps, puisque bon nombre de films en sélection officielle ou programmés dans des sections parallèles ont atterri quelques mois après seulement sur les écrans, y compris donc Mélancolia, le dernier film de Lars von Trier. Un film très ambitieux, dans lequel Kirsten Dunst, dépressive au dernier degré, tente dans un premier temps de mener à terme sa cérémonie de mariage. Chronique d'un drame annoncé, celui-ci explosera en plein vol, tels les feux d'artifice qui clôturent la fête. Si la première partie peut lasser, décontenancer ou sembler inutile, elle prend tout son sens grâce à la deuxième partie. En effet, la planète Mélancolia menace la Terre, tandis que la jeune mariée, aussitôt divorcée, est venue vivre chez sa sœur, Charlotte Gainsbourg, elle-même mariée au riche Kiefer Sutherland, alias Jack Bauer, qui, cette fois, ne pourra pas sauver la planète en 24 heures chrono. On est sans aucun doute devant une très grande œuvre de Lars von Trier qui n'a jamais atteint un tel paroxysme esthétique. Le réalisateur a un sens certain du prologue. Dans Antéchrist, les spectateurs est copé d'une scène pornographique en noir et blanc sur fond de défenestration d'enfants. Ici, ce sont des images interminablement ralenties qui s'étirent comme des tableaux mouvants et annoncent d'ores et déjà la tragique fin de l'histoire. En revisitant le genre du film catastrophe, Lars von Trier parvient à en faire un huis clos, à montrer la tragédie du point de vue d'une famille seulement. La force et la maîtrise du film consistent à faire évoluer constamment les personnages à l'aide d'une tension lentement distillée et à orchestrer une apocalypse calme dans un chaos tout en poésie. Mélancolia allie à des images magistrales une profondeur de réflexion rarement égalée chez Lars von Trier. On y retrouvera entremêlés les thèmes de la dépression, de la vie, de l'amour et de la mort, tous traités avec une égale intelligence. Ce n'est pas un film facile, mais pour moi c'est le meilleur film de l'été en tout cas.
D'accord, oui. Oui, c'est vrai que c'est pas un film facile, hein, d'autant que je me permets d'intervenir parce que je l'ai vu il y a peu. C'est vrai que la première partie est extrêmement dépressive, enfin voilà, on voit ce personnage féminin qui, enfin on pense qu'elle va réussir, tout son entourage lui dit allez sois forte pour ton mariage, sois forte, bon, enfin après on laisse le suspense, mais enfin comme tu l'as dit, hein, après elle se retrouve divorcée, donc voilà,
oui,
et c'est là, et c'est là où ça devient finalement intéressant parce que finalement c'est un film alors où les effets spéciaux sont pas absents, mais c'est l'anti-film catastrophe. Et c'est là où c'est très 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 intéressant.
Et c'est finalement beaucoup plus anxiogène, je trouve, de réaliser ça dans un huis clos. Et sans aucun effet spéciaux pratiquement. Ouais.
Et puis ça renvoie à plein de questions, à plein d'émotions. Je pense que c'est suffisamment sensible pour nous arracher quelques angoisses sans doute, pour savoir si la fin du monde est programmée, qu'est-ce qu'on fait ? Alors soit on fait comme 2012, c'est-à-dire qu'on prend un camping-car et puis on essaie de devancer le cataclysme, soit on fait autre chose et c'est ce que montre Lars von Trier en tout cas, voilà, avec un personnage qui n'est pas facile. Mais elle s'en tire très bien par ailleurs.
Les personnages sont très intéressants parce que j'ai l'impression que tous les acteurs sont vraiment à contre-emploi. Aussi bien Charlotte Rampling que Charlotte Gainsbourg, avec un rôle très froid, de femme riche, aisée, dans son manoir perdu.
Voilà, je pense que c'était ça qui était pour moi assez difficile, c'est quel contexte il a mis pour raconter cette histoire. C'est-à-dire que c'est un monde où il y a du fric. Et on se dit, il va y avoir une collision, donc le fric n'a plus d'importance. Donc si ça n'a plus d'importance, finalement, pourquoi faire un prologue où il y a tant de fric ? Enfin, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, voilà.
C'est joli à filmer, je pense, plus oui, que si c'était dans un taudis.
Surtout que c'est un mariage, donc effectivement, si ça ne se passe pas avec comment ça s'appelle, toutes ces chansons Annie Cordy, si on prend pas un mariage un peu populaire, oui, ça donne des belles images. Et là, en l'occurrence, on se retrouve dans ce vieux manoir, voilà, avec plein de règles comme ça à suivre, et je comprends que les règles pour ce personnage féminin soient très 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 compliquées à suivre, voilà, surtout qu'elle a le pressentiment.
Oui.
Mélancolia, donc ça sort,
déjà sorti, c'est encore à l'affiche. Peut-être pas au Diagonale, mais ça va passer à l'Utopia.
Oui. Et puis Onistor Burma.
Voilà, ce soir, ça commence.
D'accord. Onistor
Burma. Tu l'as vu, Michel ?
Pas encore, je comptais y aller le voir ce soir, et encore plus avec la bonne critique, évidemment.
Et bien maintenant, on va tout de suite passer à un autre, La Pielle qui habite au. Voilà, c'était la musique de La Pielle qui habite au de Pedro Almodovar, autre temps fort du festival de Cannes 2011. Alors, j'aurais aimé avoir la possibilité de chroniquer ce film, que j'attendais impatiemment. Malheureusement, je ne pourrais vous en faire qu'une demi-critique, puisque je n'ai vu qu'une moitié du film. Bon, plutôt que de faire ça, ce qui ne serait pas très logique, je vais vous expliquer ma mésaventure avec un petit poème. Marine, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue lorsque la rentrée fut venue. Pas un seul petit morceau de projection correcte au Diago. Délaissant la pellicule classique, ils se sont mis au numérique. L'intention est louable, hormis quelques problèmes techniques. Car à deux reprises déjà, point de projection honorable. Je ne suis pas râleuse, c'est là mon moindre défaut. Et comment vais-je voir le film de Pedro ? Demandai-je à l'ouvreuse. Nuit et jour à tout venant, nous nous modernisons, ne vous déplaise. Vous vous modernisez ? J'en suis fort aise. Eh bien, assurée maintenant. Voilà, non, c'était juste un petit coup de gueule, sous forme d'un petit pamphlet, parce que, en effet, je n'ai pas pu voir la deuxième moitié du film. J'étais un petit peu frustrée, pour cause de projections numériques pas très réussies.
Eh oui, et moi, je ne sais pas pourquoi. Alors, hier aussi, je suis allée au Diagonal pour voir La Fée. Le dernier film de Fiona Gordon, ceux qui avaient fait Rumba, je m'en faisais une grande joie, et finalement, pareil, projection annulée. Alors, est-ce que c'est effectivement la même salle maudite avec
c'était
ce nouveau projecteur ?
C'était la même salle, oui.
Ah, oui,
et
ce
c'est pas la seule, parce qu'en salle 2 aussi, quand j'ai été voir La Guerre est déclarée, pareil, problème technique, on a pu voir la fin du film cette fois, mais bon.
Rien ne va plus au Diagonal.
Rien ne va plus.
On aura Antoine Périniguez peut-être pendant cette émission, voilà, pour faire un relais live. J'espère que ce ne sera pas comme ça, Onistor Burma. Hein.
Pour l'instant, la salle est extrêmement bien équipée. Faut
numérique aussi.
Ça, numérique, et ça oui. Fonctionne très très bien.
Voilà. Cinérama. Cinérama, je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Voilà, eh bien, on passe justement à un sujet qui concerne le cinéma Nestor Burma, hein, nouvelle salle municipale à Montpellier, où le collectif Ciné Solidarité Latino organise de temps à autre, assez souvent,
hein, ouais, une moyenne des projections de débat. Chaque mois ou chaque deux mois maximum.
Voilà. Donc vous animez ces séances et ce cinéma. Et là, vous avez choisi alors, un sujet qui concerne le Mexique et la cause zapatiste. Et c'est le film Viva Mexico, qui est un documentaire de Nicolas Desfossés. Hein, un film de 2010.
Oui,
c'est bien
tout récent, oui, enfin, qui était allé de monter et présenté en 2010.
Alors pourquoi vous avez choisi ce film pour le jeudi 29 septembre ?
Pourquoi la date ?
Non, pourquoi le film ?
Bon, y a beaucoup de raisons. Le Mexique, tout le monde a entendu parler. On n'entend pas tous les jours, bien sûr, à cause de la violence qui s'exprime, malheureusement, qui s'exploite dans les médias. Ça, c'est un peu regrettable, parce que le Mexique ne se réduit pas à ça. On en a parlé aussi beaucoup à cause de la fameuse année du Mexique qui était prise un peu comme chantage par le gouvernement français. Suite à l'affaire de Florence Cassé, comme tout le monde sait. Ensuite, bon, le gouvernement, effectivement, ce qui était logique, s'est fâché. Il a décidé de l'annuler. Mais le Mexique, c'est bien autre chose que cela. Et on a choisi ce film-là, qui est loin d'être une apologie pure et simple du mouvement zapatiste, mais qu'on a pris effectivement le mouvement zapatiste et ce documentaire comme point de départ pour faire découvrir à mesure que nous marchons, parce que c'est une longue marche en fin de compte ce film, à mesure que nous marchons avec le mouvement zapatiste et entre autres le commandant Marcos, qui refuse d'être appelé le chef, mais simplement subcommandante, sous-commandant. Donc, à mesure que nous marchons avec ce groupe, nous découvrons le Mexique profond. Et c'est là tout l'objectif de ce film, c'est de faire découvrir, à travers cette marche qui part du Chiapas, donc la zone d'origine du mouvement des insurgés des nouveaux zapatistes, faire découvrir le Mexique profond. Alors, en fait, en 2006, qu'est-ce qu'il se passait? C'était donc les élections présidentielles, donc tout à fait officielles au Mexique. Et donc, le mouvement zapatiste a décidé de sortir, donc comme le loup sort du bois, de sortir de sa tanière du Chiapas, bien protégé, puisqu'en fin de compte, ce n'est plus considéré comme un mouvement rebelle et délinquant, comme effectivement il y a quelques années, puisqu'ils ont refusé officiellement à la lutte armée, ont décidé d'aller à la rencontre des Mexicains. Non pas pour faire campagne pour la personnalité, la personne de Marcos, mais au plus haut pour se mettre à l'écoute des différentes luttes régionales, provinciales, locales, de toutes les catégories sociales de la population et en particulier de celles qui n'apparaissent pas effectivement dans les journaux, dans les journaux, si ce n'est comme victimes. Donc il a parcouru, on peut dire, en 6 mois, le Mexique du sud au nord, de l'est à l'ouest, pour se mettre à l'écoute des gens. Et ce film relate cette odyssée, car c'en était une, donc où on voit Marcos le plus souvent, même s'il a toujours son passe-montagne et sa fameuse pipe, le plus souvent se mettre à l'écoute des gens. Et il ne fait pas un discours prosélytiste pour parler de sa cause. Il l'évoque de manière anecdotique pour dire, nous aussi nous sommes en lutte depuis en fin de compte. 1er janvier 1994, ça correspond donc au déclenchement du soulèvement armé. Mais cette fois-ci, nous avons décidé que nous sommes certains que nous ne pouvons rien faire sans vous. Et vous pouvez nous apprendre des choses. Et donc ce film raconte ces 6 mois de traversée, d'odyssée du Mexique profond, où on nous relate au fur et à mesure, effectivement, les différentes luttes des différentes couches sociales de la population. Et c'est en cela qu'il prend un intérêt remarquable et tout à fait actuel par rapport aux luttes d'aujourd'hui qui sont toujours en cours.
Alors finalement, il suit donc cette marche hein, de 6 mois. Est-ce qu'il y a en contrepoint ou en contre-champ, je dirais, ce qui se passe au Mexique finalement? Parce que vous dites qu'on parle du Mexique avec ses massacres, avec...
Pas dans le film.
Voilà, oui, mais pas dans le film. Médias, voilà. Oui. On ne voit pas le contre-champ hein, qui est vraiment ce que vit le Mexique actuellement. Fait, hein. C'est vraiment quelque chose de très positif qui suit le mouvement de... Voilà.
C'est un cinéma qui va au-devant du peuple et qui montre que le peuple ne se résout pas à être effectivement un peuple pleurnichard, victime, qui pleure ses morts, assommé par le narcotrafic ou la violence institutionnelle, mais c'est un peuple qui joue des fois sa vie et parfois souvent sa survie, mais qui s'organise. Et donc c'est vraiment un miroir tendu au peuple pour qu'il puisse s'exprimer et pouvoir se mettre en relation avec d'autres luttes dans d'autres régions du pays. Et en fait, l'idée principale, c'est que tous ensemble, nous existons, nous pouvons faire quelque chose. Chacun dans son coin isolé, on ne sert strictement à rien. Et c'est un peu le message qu'essaie de faire passer le sous-commandant Antonio Marcos avec le mouvement zapatiste, c'est qu'en fin de compte, lui s'est rendu compte que lui aussi isolé ne sert plus à grand-chose. Et qu'au-delà du mouvement indigéniste qui vise à faire reconnaître les droits des peuples autochtones, et en l'occurrence ceux du Chiapas, droits culturels, droits sociaux, droits politiques et droits à la terre qui est fondamental, tous les peuples du Mexique ont des revendications très, très concrètes, effectivement, que ce soit pour protester contre la mise en place d'un aéroport qui va donc complètement mettre en l'air leur culture, que ce soit pour une marina qui se fait au détriment des pêcheurs locaux. Il y a de nombreux exemples qui apparaissent dans le film, y compris par les droits des homosexuels, les droits... Si vous y allez, vous verrez, c'est d'une richesse extrêmement phénoménale et qui donne à voir et à penser sur le Mexique, y compris celui de 2011, puisque, si vous me permettez, c'est peut-être un peu long, en fin de compte, puisqu'il y aura débat, donc
oui,
je me permets de dire.
Mais c'est justement, moi c'était ma question, alors d'accord. Peut-être que je peux la poser.
Tout à fait, oui.
Parce que Nicolas Desfossés donc, a suivi cette marche pendant 6 mois, donc ça c'était en 2006, effectivement, maintenant on est en 2011. Oui. Qu'est-ce qu'a donné cette marche? J'imagine que ça interviendra pendant le débat.
Voilà, donc je ne vais pas vous révéler, parce qu'en fait, il est certain que Nicolas Desfossés connaît beaucoup plus de choses que moi. Cela dit, j'ai eu la chance d'assister à la première présentation donc, de ce film qui a eu lieu à Montpellier autour de février-mars à l'Utopia, à guichet fermé. Et c'est bien pour ça que nous avons eu l'idée de pouvoir recontacter Nicolas, de le refaire à Celle-Neuve. Et il s'avère qu'en fin de compte, les gens ont commencé à se rencontrer, à reprendre espoir. Et les marches qui ont lieu actuellement aujourd'hui, qui s'appelle Marche pour la dignité et la paix. Entre autres, une qui est très célèbre, qui est toujours en cours, qui vient de se terminer, qui est lidérée par un poète, Javier Sicilia, dont le fils a été tué par conséquence des guerres.
Du narcotrafic.
Narcotrafic et l'État. Mais qui ont repris un peu le flambeau de la marche. En fait, les Mexicains sont des marcheurs. et on parcourt le pays du nord au sud et de l'est en ouest. Et ils viennent de rencontrer le mouvement zapatiste au Chiapas. Donc, je ne connais pas bien sûr la teneur des résultats de cette conversation pour dire que la solidarité, les contacts continuent et peut-être qu'effectivement le commandant Marcos est à l'origine de cette inclination à fortement encourager à se rencontrer pour demeurer solidaire.
En tout cas, ça met aussi en lumière tout un peuple, effectivement. Je trouve ça très intéressant, d'ailleurs, que, comme tu le disais, on ne parle pas du Mexique qu'avec les narcotrafiquants, parce que ça, c'est effectivement un problème, c'est du fait divers, c'est très politique aussi, parce qu'il y a l'armée qui ne joue pas forcément son rôle, enfin, tout ça me semble assez mal géré. Et j'avais vu un autre documentaire, alors je ne sais plus si je l'ai vu au Cinémed ou aux Trois Continents à Nantes, pareil, avec des élans de fraternité, comme ça, avec des femmes qui se retrouvaient près d'une voie ferrée, avec un certain nombre de personnes qui montaient sur les trains pour, on imagine, enfin, ils venaient de l'Amérique centrale, et puis passaient au Mexique, peut-être pour aller aux États-Unis, et il y avait tout un village avec des femmes qui attendaient ce train, et qui leur lançaient de la nourriture. Et ça, je me dis quand même, ça montre aussi la fraternité d'un peuple. C'est un documentaire, je crois aussi, là encore, d'un Français.
Je ne sais pas, je crois avoir vu ce film, mais bon, non, comme toi, le titre m'échappe aussi. Mais c'est vrai que
un festival de court-métrage, j'ai vu ça, oui.
Peut-être, c'est voilà, un oui. court-métrage. Mais c'est certain que si on ne peut pas parler de tout, mais que l'Amérique centrale est aussi effectivement complètement enfoncée dans cette spirale horrible du pouvoir des narcotrafics sur les États, et la violence aussi des délinquants, et que tout ça a une base. Il y a des bases, bien sûr, qui expliquent cette violence. Les laissés-pour-compte sont toujours les mêmes. Et il est temps qu'ils se prennent en charge, qu'ils s'organisent, qu'ils se reconnaissent et que la lutte parte, comme le dit très bien. C'est un petit peu le thème fondateur, en quelque sorte, du mouvement de l'armée zapatiste de Libération nationale. C'est pour dire cette phrase qui est très connue. En bas et à gauche se trouve le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire en bas? Non pas que ce soit dans les talons, sur les talons, dans les chaussures, mais qu'il faut partir de la base. Mais que globalement quand même, nous sommes bien de gauche, au sens large du terme, effectivement. Et que ce n'est pas uniquement avec des élections où on change les élites qu'on changera le problème. Il faut éduquer, solidariser, faire prendre conscience aux gens de base et marcher ensemble. C'est un peu la leçon que donne ce documentaire que je trouve fantastique, parce qu'il donne à penser, à voir et à discuter, bien sûr, après.
Alors, on peut même le contextualiser par rapport à ce qu'on vit, nous, ici. Enfin, en France, on le vit un peu moins fort, le combat des indignés.
Tout à fait.
Mais c'est en Espagne, oui, c'est en Italie. Ça pourrait arriver en France. Il y a encore des réunions qui sont prévues. Donc, voilà, on est aussi face à ça. Hein. Tu parlais des élites, effectivement. Si on change des élites, qu'est-ce que ça va changer? On n'en sait rien, puisque eux-mêmes disent, bon, bah oui, enfin nous, il faut chercher à squeezer les financiers, mais bon, personne ne fait rien. Donc, voilà, ce genre de documentaire aussi, et cet exemple zapatiste.
Parce que ça fourmille d'exemples concrets qui explique bien, en fin de compte, cette mainmise du pouvoir et des charognards de l'argent, effectivement, sur le peuple, et que ce n'est pas une question d'élite à changer, mais que c'est vraiment d'en bas que le problème peut commencer à se résoudre.
Donc, peuple de gauche, allez tout de suite.
Si tu me permets, je voudrais citer une petite phrase, parce qu'elle est donc traduite de l'espagnol, et sortie d'un livre assez peu diffusé du commandant Marcos lui-même, qu'il faut savoir que, en delà d'être quelqu'un qui écrit très bien, c'est aussi quand même un poète. Hein. Et à propos de la liberté, il écrivait ceci. La liberté, c'est comme le matin. Il y a ceux qui attendent endormis qu'il arrive, mais il y a ceux qui veillent et marchent durant la nuit pour l'atteindre. Moi, je dis que les zapatistes ont les insomniaques que toute histoire nécessite. Je trouve cette petite phrase simple, mais lourde de sens. Il faut rester en veille permanente et ne pas hésiter à marcher quand le temps est venu.
Et elle symbolise effectivement ce combat qui a démarré en 94.
Et les indignés sont un bon exemple, qui a commencé effectivement en 1er janvier 1994.
Voilà, l'histoire de sous-commandant Marcos, et donc ses suites où il sort de la clandestinité. Ça s'appelle L'autre campagne.
Voilà.
C'est ce qu'a suivi donc Nicolas Defossé.
Voilà.
Le titre du documentaire, c'est Viva Mexico. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport d'ailleurs avec.
C'est un titre ironique.
Viva Mexico de Eisenstein.
Pas directement. Le projet de Eisenstein, c'était de glorifier la révolution mexicaine, donc d'il y a à peu près un siècle, quoi, donc avec justement le vrai Emiliano Zapata et Pancho Villa, comme voilà. Mais Viva Mexico, pour dire qu'en fin de compte, c'est quand même un pays qui mérite d'être regardé, mais de près. Et la base, et pas seulement ce compte des informations que l'on donne, et que c'est un pays vraiment fascinant à tout point de vue, parce que c'est un pays, malgré tout, de marcheurs et de révolutionnaires. Donc il y a beaucoup à attendre de ce pays, mais il faut l'appuyer quelque part.
Intelligence, courage, chaleur, fraternité, ce sera ce jeudi 29 septembre. Alors si on vous a reçu aujourd'hui, c'est justement pour que les spectateurs prévoient ce rendez-vous.
Oui.
C'est à 20h30 au cinéma Nestor Burma, et l'entrée sera de 6 et 5 euros.
Oui.
Et donc, eh bien, voilà, vous aurez l'occasion de voir Nicolas Defossé, qui reviendra, j'imagine, sur le tournage, et puis qui, lui, aura peut-être eh bien, une vue encore plus claire sur l'actualité et la suite de cette autre marche.
Oui, d'autant qu'il revient d'un voyage très récent à Mexico, donc il aura les dernières nouvelles.
Ouais, puisque c'est un passionné, j'imagine, lui aussi, du Mexique.
Il fait partie de ce qu'on appelle ce mouvement alternatif de gens qui cherchent une autre information, d'un cinéaste engagé, et donc en même temps qui reste extrêmement objectif dans sa manière de présenter les faits. Donc ça vaut la peine, ça vaut le déplacement.
Eh bien, on est très content d'en parler, en tout cas dans Cinérama. Merci, Michel Princey.
Au revoir.
On va changer d'univers avec toi, Marine.
Exactement, avec tout de suite une petite pause musicale. C'est une des chansons extraites du film Les Bien-aimés de Christophe Honoré, interprétée par Ludivine Sagné.
Quand se déteste, ils viendront bien les coups de schlag avant de nous passer à l'est. Sans toi, tu sais, le seul problème, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer. Attends un peu qu'on se délite, ils viendront bien les coups de trick avant de nous mettre en orbite. En Tupolev ou en Spoutnik, en Tupolev ou en Spoutnik. La tour Eiffel t'ennuie déjà. Est-ce la tour Eiffel ou bien moi? Je peux vivre sans toi, tu sais. Le seul problème, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer. Attends un peu jusqu'au déluge, ils viendront bien les coups de Knut avant de jouer les transfuges et de voyager dans la soute. Et de voyager dans la soute. La tour Eiffel t'ennuie déjà. Est-ce la tour Eiffel ou bien moi? Je peux vivre sans toi, tu sais. Le seul problème, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer. Je peux vivre sans toi, tu sais. Ce qui m'ennuie, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer.
Cinérama n'est pas devenu une émission musicale, hein.
Non, oui, donc voilà, c'était juste un extrait de la BO des Bien-aimés de Christophe Honoré, de Alex Baupin. Cette chanson est interprétée donc par Ludivine Sagnier. Alors, si vous n'avez pas aimé les chansons d'amour du même Christophe Honoré, passez d'emblée votre chemin, car la formule est appliquée ici à un film de bien plus grande consistance. Les Bien-aimés se présentent comme le grand frère des chansons d'amour. Plus long, il ose enfin sortir des murs de Paris pour raconter quelques coucheries dignes d'un roman SAS tout autour du monde, à Prague, à Londres ou à Montréal. Probablement un peu trop ambitieux, Honoré mélange en effet la petite et la grande histoire, posant sans trop de délicatesse ses intrigues au cœur du coup de Prague ou du 11 septembre. Ces contextes historiques un peu tape à l'œil ne servent que d'écrin à des histoires d'amour contrariées, comme d'habitude. Une mère, Catherine Deneuve, au passé chargé, poursuit une liaison extra-conjugale qui s'étire sur le temps d'une vie, et sa fille, Chiara Mastroianni, souffre d'un amour impossible, le tout étant bien sûr entrecoupé des chansons d'Alex Baupin, qui ne renouvelle pas franchement le genre. Alors si la cour des acteurs qui entourent Christophe Honoré reste la même, à savoir Ludivine Sagnier ou Louis Garrel, il convie également des comédiens plus atypiques, nous offrant par exemple un duel Michel Delpech versus Milos Forman particulièrement musclé. Pas de révolution donc dans son style, Honoré s'est toujours aussi bien jonglé de la comédie sautillante au drame le plus noir. Et malgré une forte impression de déjà-vu, son regard remarquablement juste posé sur les femmes continue de donner matière à de jolis films. On reste dans le cinéma français et même parisien, avec donc une sortie encore plus récente, La guerre est déclarée.
On était bien, on était heureux.
Oh, Superman. Attends, j'ai hâte qu'on soit à la maison.
Pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi Adam?
Parce qu'on est capable de surmonter ça.
Écoutez, on est inquiet pour Adam, et vous savez que c'est pas dans nos habitudes.
Coucou Adam, regarde-moi.
Heart you can find.
J'ai peur, Roméo, j'ai tellement peur.
Il faut pas qu'on essaie d'en savoir plus que les médecins.
T'as compris tout ce qu'il a dit?
Non, pas vraiment, il faut retenir que ce qui est positif.
Oui.
Tu me fais du bien, Juliette. J'aurais jamais pu vivre ça avec quelqu'un d'autre que toi.
Voilà, c'était la bande-annonce de La guerre est déclarée de Valérie Donzelli avec elle-même et Jérémy Alkaïm. Alors j'ai en premier lieu mené ma propre guerre pour réussir à avoir le film, car grâce à un buzz rondement mené, parvenir à avoir une place demandée, que vous ayez une ténacité sans faille ou un piston au diago. Non, je ne pense à personne en particulier. Mon scepticisme se posant toujours en réponse au trop vaste engouement suscité par un film, je n'ai pas dérogé à la règle cette fois-ci. La guerre est déclarée émeut davantage qu'il ne séduit, et il est difficile de garder un esprit critique tant le film en appelle à l'humanité qui est en nous. L'histoire a tout pour faire pleurer dans les salles, un jeune couple heureux découvre que leur bébé est atteint d'une tumeur au cerveau et ils vont alors se lancer dans une lutte sans relâche pour le sauver. On se demande quand même où la presse, unanime dans ses éloges, a décelé une quelconque sobriété dans cette mise en scène supposée éviter le pathos, tant le film cherche à provoquer une émotion débordante à chaque image, avec, il faut le reconnaître, une grande efficacité. L'unique fraîcheur du film consiste à mettre en évidence toute la joie de vivre qui unit encore les parents et à s'attarder surtout sur la complicité de leur couple et sur leur optimisme forcené. Le problème étant que par un effet de style ou une volonté de créer une distance entre leur jeu et leur propre histoire, les deux acteurs interprètent d'une manière étrangement maniérée leur propre rôle, avec une diction presque fausse. La réalisation de Valérie Donzelli, qui joue aussi dans le film, a le charme et les défauts de cette nouvelle vague dont elle s'inspire. Elle est audacieuse mais un peu maladroite et nous montre une histoire universelle mais sur un ton un poil élitiste. On reste néanmoins très indulgent envers ses petits travers grâce à la formidable énergie vitale et artistique qui se dégage du film. Donc voilà, la guerre est déclarée, il doit y avoir un petit peu moins de monde maintenant qui se précipite dans les salles, donc vous pouvez y aller tranquillement. Et donc ça passe encore au Diagonal.
Oui, ça va passer, je pense, à l'Utopia et ça passera ensuite au Nestor Burma, voilà. Mais en fin de semaine ou au mois d'octobre carrément. Voilà.
Donc vous avez encore le temps pour le voir.
Séance de rattrapage. À noter que effectivement, hein, ce couple-là est un couple à la ville et puis aussi un couple de cinéma puisque Jérémy El Kaïm, je l'ai vu dans le film de Mai Wen. Il joue dans Police aussi.
Ah.
Voilà, oui. Et je crois, voilà, qui s'est chargé du scénario. Donc autant dire qu'il va s'occuper en tout cas du nouveau cinéma français, d'un certain nombre de films qui vont arriver sur les écrans. En dehors de la guerre des boutons, le 1 et le 2, voilà.
Non, nous n'en parlerons pas, non.
Nous n'en parlerons pas. Ça n'aura échappé à personne, la Grèce, c'est un sujet que toutes les rédactions françaises et européennes traitent depuis quelque temps déjà. Ils ont mis un sacré bazar dans la belle union monétaire, faillite ou pas faillite, on en saura plus en écoutant les journaux d'information. Mais si on veut voir un film grec, c'est aujourd'hui qu'il faut se déplacer dans les salles pour y voir Attenberg d'Atina Rachel Tsangari, qui n'est pas tout à fait une inconnue puisqu'elle est sur plusieurs fronts. Elle est artiste, plasticienne, réalisatrice et aussi productrice, notamment du nouveau cinéma grec. L'histoire de la production d'Attenberg, son deuxième long métrage, est intéressante d'ailleurs, puisqu'elle était aux États-Unis sur deux projets qui n'ont jamais eu de financement du fait de la crise. Elle décide donc de rentrer en Grèce, où là encore, eh bien forcément, la crise la poursuit. Mais avec une petite équipe, elle parvient à écrire Attenberg en une semaine et un peu plus pour le tourner. Un film donc à l'économie, on s'en douterait bien, les Grecs ayant d'autres dettes que celles du cinéma à honorer. Alors, est-ce qu'Attenberg est un antidote à la crise ? Pas vraiment. Attenberg, c'est l'histoire de Marina qui vit dans une cité industrielle et dont le quotidien se partage entre son père mourant et sa meilleure amie qui lui apprend à embrasser. Alors, quand on pense à deux femmes qui s'embrassent, surtout quand on est un homme, on imagine la chose sensuelle. On revoit Mulholland Drive de David Lynch, La Blonde et la Brune dans L'Étreinte. Là, non. D'ailleurs, un des premiers commentaires de l'apprentie amante Marina, c'est « C'est la première fois que j'ai quelque chose qui gigote dans la bouche. On aurait dit une limace. C'est dégoûtant. » Donc, autant dire que c'est pas gagné pour que la jeune femme de 25 ans, encore vierge, décide de franchir le pas et d'aller s'enfermer dans une chambre avec un garçon. Alors son problème à Marina, si elle reste entre son père à qui elle demande s'il l'a déjà imaginée nue et auquel le père répond qu'il y a des tabous à respecter pour le bien de l'espèce, donc si elle reste entre ce père tout aussi présent et énigmatique et sa meilleure amie qu'elle n'hésite pas à traiter de coureuse, c'est qu'elle n'aime pas tant que ça l'humanité. Elle préfère même regarder les documentaires de Sir David Attenborough, je crois qu'on le dit comme ça, qui fait dans le documentaire animalier. Alors le titre du film vient d'ailleurs du nom Attenborough, qui, si on le prononce mal avec l'accent grec, devient vite Attenberg. Voilà, mais ça, j'ai toujours pas compris cette magie. Enfin, mais voilà, c'est que je ne suis pas grec. Dans son quotidien, Marina s'éveille au désir et à la mort, Eros, Thanatos, donc rien de bien nouveau. Mais ce qui est à l'œuvre dans ce long métrage, c'est un style, la patte de sa réalisatrice, qui dans des dialogues et situations n'hésite pas à questionner le tabou du sexe et de la mort, et dans l'image nous offre des cadres simples, entrecoupés de bizarreries dansées, plutôt bienvenues, donc c'est presque de la chorégraphie, car si le ton est sarcastique, ça n'est pas la franche rigolade. Alors il n'empêche qu'Attenberg est un film dont le ton décalé nous sort de l'ambiance dépressive et cela tient tant à l'écriture qu'au rôle sur mesure de Marina. L'actrice qui l'interprète Marina, c'est Ariane Labed. C'est une franco-grecque et elle a d'ailleurs raflé le prix d'interprétation à Venise donc pour ce rôle. Donc Attenberg, c'est une curiosité grecque comme on en voit une fois par an, c'est projeté au Diagonal Capitole et ça sort d'ailleurs aujourd'hui sur les écrans. Voilà. On en a presque terminé avec Cinérama, à moins que, Michel, tu veuilles parler d'un film qui t'a tenu à cœur cet été, ou pas. Moi, j'ai vu Nanni Moretti à Bemous Papam, mais j'ai pas spécialement envie d'en parler.
Pas vu, Non, moi, j'ai beaucoup aimé, souvent des souvenirs assez, des visions récentes, disons, de films. Les anciens, il faut me les rappeler pour que je m'en rappelle. Bon, alors, et maintenant où on va ? Donc, je trouvais le titre insolite et ça m'a beaucoup plu. donc le film de la réalisatrice qui a déjà commis le délicieux caramel. Bon, à l'époque, on était déjà régalé.
Un film libanais. Hein.
Ouais, film libanais de Nadine Jedaski. Comme ça. Et non, j'ai beaucoup aimé parce que déjà le parti pris humoristique pour traiter des conflits religieux, voire interethniques entre musulmans et chrétiens dans un Liban en permanence quasi déchiré pour les luttes des mecs, parce que je dis des mecs entre guillemets, mais la plupart des femmes qu'on voit dans le film ne sont pas forcément partie prenante de ces conflits qu'elles jugent en grande partie absurdes et essayent de tout faire pour divertir leur mec, justement, de cette obsession de la lutte contre le mécréant. Donc, je trouve ça très bien traité. On passe un moment et ça n'empêche pas d'y réfléchir.
En tout cas, Caramel, hein, c'était effectivement un très bon film avec une vraie belle lumière et puis un vrai propos hein, sur les femmes. Et sur,
Là, elle a joué sur une peau de banane, mais elle n'est pas tombée. C'est ça qui est bien dans le deuxième film. Ouais.
Voilà, ce sera le film conseillé. Maintenant, on aura une nouvelle rubrique, le film conseillé par notre invité. Ah non, mais je n'ai pas dit que tu reviendrais toutes les semaines. Hein, mais
voilà. M'a fait peur.
Même si on recrute ici à Cinérama. Hein, parce que normalement, l'émission fait une demi-heure. Alors aujourd'hui, pour la rentrée, exceptionnellement, elle fera plus d'une demi-heure. On va en terminer avec l'agenda. Et on va voir eh bien, ce qui se passe du côté de Nîmes. Ce sera le 27 septembre. Le cinéma Sémaphore propose à 20h30 la projection du film Laïcité, Inch'Allah, de Nadia El Fani, suivi d'une rencontre avec la réalisatrice. Le 28 septembre, c'est le Cratère, cette fois-ci, d'Alès, qui propose à l'occasion de ses 20 ans la projection du film Le Sauvage, donc vieux film de Jean-Paul Rapneau. Ensuite, on va à 7, le 23 septembre, l'association Ciné Sétois propose à 20h30 au cinéma Comoedia la projection débat autour du film Les Moissons du Ciel de Terrence Malick, dont on avait déjà parlé, oui, il me semble. Oui. On avait fait un gros sujet sur Terrence Malick. Ouais, ça, ça avait duré dans le cinérama. Ensuite, donc le Nestor Burma propose à 20h la projection le 23 septembre du film Bazici de Mehran Tamadon, suivi d'une rencontre avec le réalisateur. On peut parler aussi eh bien, de forcément Viva Mexico, hein, le 29 septembre, ce sera aussi à 20h30 au cinéma Nestor Burma. Et puis, on va faire un petit tour du côté de Béziers avec le Ciné-Club Biterrois qui propose le 23 septembre à 20h15 et le 24 à 16h30 au cinéma Montciné une projection débat autour du film Chantons sous la pluie. Alors ça c'est pas nouveau, hein, de Stanley Donen. Et puis on termine avec Montpellier le 26 septembre. C'est le Diagonal qui propose, dans le cadre de la 9e semaine allemande, dont personne ne parle pour l'instant, à 20h15, un ciné-concert autour du film Le Dernier des Hommes de Murnau. Voilà, le film sera accompagné en direct par Martial Romanco au piano, à la voix, aux percussions, au clavier et à l'accordéon. Donc il s'agit d'un ciné-concert autour de ce film de Murnau. Sachant que moi, les meilleurs ciné-concerts que j'ai vus, c'était quand même avec de la musique électro, parce que je trouve que ça met un peu de vitamine dans sa vieille pellicule. Voilà.
Ça m'intrigue quand même le débat autour de Chantons sous la pluie. Je me demande de quoi il sera question. Allez voir.
Mais j'avoue que je pense qu'en plus, plein de personnes ont déjà vu Chantons sous la pluie. Bon, après, on l'a pas vu forcément au cinéma, donc c'est comme voilà. Bon, c'est aussi le but d'un ciné-club, c'est de projeter des films qu'on n'a pas vus au cinéma forcément. Et qui ne sont peut-être pas passés à la séance du dimanche soir sur TF1. Voilà. C'était Ah, Michel.
Oui, c'est juste comme tu parlais de recrutement, je vais en profiter pour faire un petit appel. En fin de compte, notre collectif Cosisola se maintient plutôt mieux que mal, disons, mais je lance un appel à toutes les associations latino de Montpellier de venir nous rejoindre, parce que plus on est, je ne dis pas de fous, mais de gens qui s'intéressent à la culture latine, plus on pourra proposer de films qui ont trait aux différents pays du continent. Donc actuellement, on est en tractation assez positive avec les Colombiens qui vont pas tarder à nous rejoindre, mais je souhaiterais que ceux qui nous entendent et qui ont une petite association ou même peuvent la créer pour l'occasion, qui nous rejoignent, ça sera vraiment, on sera d'autant plus riche et on pourra proposer une programmation beaucoup plus. Voilà.
C'est un peu comme le sujet du commentaire, plus on est nombreux, du documentaire, plus on est nombreux.
En novembre, il est quand même prévu une soirée rapidement, parce qu'on aura le temps de se revoir, une soirée andine avec des films péruviens et bolivien, voilà.
Voilà, ça c'est encore plus rare que les films mexicains. Hein. Enfin, ou sur le Mexique. Parce que, en l'occurrence, c'est une production française.
Je pense d'ici là.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Tout ça est très très intéressant, bien qu'un peu, comment dirais-je, technique.
Voilà, c'est le nouveau générique un peu survitaminé. Cinérama s'achève. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Marine.
Merci Vincent. À la semaine prochaine.
Et on remercie notre invité, Michel Princey.
Merci beaucoup.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.